Salut Reda, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter aujourd'hui d'Atom, Atom Cosmos dont on entend de plus en plus parler, dont on voit le cours monter malgré les quelques baisses qu'on a eues récemment. Il tient tête au marché. On va voir pourquoi il tient tête au marché, parce qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent sur cette blockchain-là et on va voir quel est le rôle de cette blockchain. On a eu l'occasion la semaine dernière de parler de tout ce qui était layer 2 et scalabilité. On a l'occasion aussi de traiter d'autres blockchains et on va voir aujourd'hui la proposition de valeur d'Atom Cosmos avec toi. Merci de nous rejoindre. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quelques mots sur toi et puis on discutera ensuite ensemble d'Atom Cosmos.
Pour me présenter rapidement, moi je suis serial entrepreneur dans la tech, donc j'ai monté plusieurs boîtes. J'ai eu quelques succès, donc dont une exit avec une boîte qui faisait de la location saisonnière et qui a été rachetée par le groupe Accor en 2017. Et après ça, c'est là où j'ai créé donc la Key Foundation, qui a sorti ce produit fintech qui essaie de bridger un petit peu le monde de la finance traditionnelle, mais aussi la finance décentralisée.
Ok, et ça va être très intéressant de discuter avec toi parce que c'est encore un autre aspect qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans les podcasts où on a beaucoup de techniciens ou en tout cas de devs. Donc là, ça va être un autre aspect, ça va être amusant, même si on va le voir, tu es à la frontière entre les deux, justement. Ce regard, avant de parler un petit peu d'Atom Cosmos et de toute la technologie, justement, à ta place aujourd'hui, comment tu vois ces deux mondes qui, est-ce que ces deux mondes qui s'entrechoquent? Ou est-ce que c'est des mondes qui commencent à se fusionner? On voit notamment avec AAV Arc, les instituts qui commencent à venir dans la DeFi, ce genre de solution-là. Comment tu le perçois, toi, de ta position? Est-ce que ça va aussi dans ce mouvement-là ou pas?
En fait, moi, je pense qu'il y a une des choses qui est très valuable, c'est que moi personnellement, j'ai une formation d'ingénieur informatique. J'ai commencé à coder quand j'avais 11 ans. Donc, en fait, je suis très, très, très tech, très attiré par la technologie. Mais aussi, j'aime bien réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie de façon pertinente pour faire du business. Et du coup, en fait, j'essayais de réfléchir de façon écosystémique. Quand on s'est dit, alors, on était sûr qu'il nous fallait notre propre blockchain, on a quand même benchmarké toutes les solutions technologiques qui existaient pour savoir sur quelle blockchain, sur quelle technologie blockchain on allait exister. Et en fait, avec la vision long terme qu'on avait, qui était de se dire, on veut se développer dans un environnement qui est à la fois scalable et peut créer de la valeur via des interconnexions, en fait, j'ai tout de suite compris que ce que Cosmos appelle IBC, à savoir Inter-Blockchain Communication, était un élément primordial de la chaîne qu'on allait utiliser. Et donc, en fait, il y avait deux chaînes, deux technologies qu'on a benchmarkées, à savoir Substrate, qui est en fait la technologie de base de Polkadot, et Cosmos SDK, donc Gaia, qui était en fait Cosmos. On pouvait tout simplement forker pour lancer notre propre chaîne. Et en fait, quand on a analysé les deux, on s'est rendu compte que Cosmos avait une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus pertinente que aurait un Polkadot, Substrate et compagnie. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est là où on vient à la question sur comment tu bridges les deux mondes, si tu veux être capable de fournir un pont pertinent pour les institutionnels, ils recherchent quoi? Ils recherchent à être dans un environnement qui est safe et qui respecte la réglementation. KYC, AML, LCBFT, tous ces éléments qui sont un peu barbares aux yeux des gens, enfin aux oreilles des gens de la crypto, en fait, c'est des choses qui doivent être développées. Par contre, aller les développer dans un environnement comme Ethereum, en fait, c'est très compliqué. Ça va à l'encontre de l'esprit d'une blockchain comme Ethereum ou d'une blockchain comme Avalanche ou autre. Et donc, en fait, en gros, ce que permet Cosmos, c'est d'avoir des environnements, c'est des app-specific chain. Donc, en fait, c'est des blockchains applicatives qui interconnectent les unes aux autres. Et donc, en fait, rien n'empêche une institution de vivre uniquement dans une région de l'écosystème Cosmos. Et c'est une région qui est 100% KYCisée, 100% respecte la réglementation LCBFT, etc., etc. Et je pense que l'approche technologique qu'a suivi Cosmos et qui était très silencieuse jusque-là est l'approche gagnante pour pouvoir onboarder des institutionnels dans cet univers-là. Et donc aujourd'hui, si on devait dire quels étaient les éléments importants aux yeux des institutionnels dans le monde de la blockchain, c'est la régulatory. Hein. Je parle avec plusieurs institutions qui veulent entrer dans la DeFi, qui veulent entrer dans la crypto, mais qui ont juste peur parce que enfin, leur asset principal, c'est leur licence. Prendre le risque d'aller dans des environnements qui ne sont pas safe, c'est prendre le risque de perdre l'asset principal de ton business.
Donc, en fait, ce qui a changé, on discutera de Cosmos en seconde partie, mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'impulsion qu'avaient les cypherpunks de l'époque de garantir un peu l'anonymat, on le met de côté, pour accueillir sur cette partie-là des institutionnels qui avaient peur de ce côté-là, justement.
Exactement, parce que quelle est la proposition de valeur principale de la blockchain et de la décentralisation ? Pendant longtemps, on a cru que c'était l'anonymat. Je ne pense pas, et je pense que ça n'a jamais été l'argument principal. Et d'ailleurs, ça n'est pas l'argument. Ça n'est pas un argument parce que c'est du pseudo-nima. Ce n'est pas de l'anonymat, parce qu'on pourra toujours remonter et via les métadatas de transactions, identifier quelqu'un. Après, bon, il y a d'autres blockchains type Zcash et compagnie. Et là, on est vraiment sur de l'anonymat, mais c'est un autre concept. En fait, en réalité, la vraie proposition de valeur que je vois, moi, en tout cas à mes yeux, sur l'environnement de la décentralisation et de la blockchain, c'est la disparition du besoin de confiance. On n'a plus besoin de tiers de confiance parce qu'on est dans un environnement qui, de base, est trustless. Et donc, le meilleur usage de cette notion de disparition de la confiance est dans le monde de la finance. Parce que les licences existent pourquoi ? Elles existent pour protéger le consommateur, pour identifier quels sont les acteurs de confiance à qui on peut confier nos économies. Quand on change totalement le paradigme et qu'on dit, en fait, vos économies sont safe, même si vous ne faites pas confiance au protocole, parce qu'on est dans un environnement trustless, la réelle valeur, c'est le fait d'enlever le middleman. Et en fait, dans le monde de la finance, tu as tellement de middlemen qui se gavent sur le dos des gens que la blockchain, ce qu'elle fait, en fait, c'est que même si on enlève ce côté anonymat qui n'aurait pu penser être la proposition de valeur principale, en fait, la proposition de valeur, elle est là. Et donc, les institutions financières et les institutionnels veulent rentrer dans ce monde où on cut le middleman, parce que même pour les acteurs qui sont en discussion directe avec le retail, ils ont tout intérêt à cutter les acteurs qui prennent des commissions sur leur dos. Donc, ils voient la valeur aujourd'hui dans la blockchain. Par contre, ils ont toujours cette crainte et cette peur de l'environnement qui n'est pas safe.
Ok. Et donc, tu en as donné des pistes de réflexion. Si on veut justement comprendre un peu plus pourquoi Cosmos par rapport à Ethereum, si tu devais nous définir un petit peu l'écosystème de Cosmos, comment tu pourrais aller un petit peu plus loin que ce que tu nous as dit en introduction, effectivement, où on va pouvoir avoir plusieurs départements et intégrations. Quelle est la force de Cosmos par rapport à Ethereum, par exemple, qu'on connaît bien ici ?
Moi, déjà, je n'ai jamais cru que l'ambition de one chain to rule them all allait gagner.
Donc, c'est qu'une chaîne gagne sur toutes les autres, c'est ça ?
Et ouais. C'est impossible que ça soit le cas parce que en tant qu'ingénieur et développeur, on ne peut pas développer un software qui fait le café, qui fait le thé, qui fait le petit déj, le déj et qui fait décoller des fusées. C'est impossible. Il faut savoir verticaliser. Et Cosmos a toujours été dans cette approche de on vous donne le protocole de consensus, on se positionne en hub. De toute façon, on n'essaie pas d'imposer quoi que ce soit. Vous, les développeurs de solutions, vous utilisez notre technologie et vous créez de la valeur de votre côté. Et vous en bénéficiez à 100%. Et donc, en fait, Cosmos a voulu, d'ailleurs, ça s'appelle Cosmos Hub, être une sorte de hub qui interconnecte les chaînes. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas encore le cas. Cosmos n'est pas un hub, mais que les connexions se créent de plus en plus vers Cosmos. Mais parce que Cosmos, en tout cas, les équipes qui ont développé Cosmos, elles ont eu cette brillante idée de se concentrer sur développer un SDK qui cartonne et qui peut être utilisé par n'importe quelle équipe qui a envie de créer de la valeur.
Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est SDK, s'il te plaît ?
Un SDK, c'est un Software Development Kit. Donc, en fait, c'est une base de librairie qui permet de très rapidement lancer des solutions sans avoir à redévelopper et refaire la roue.
Okay.
Donc, en fait, tout est pré-développé quasiment. On peut juste changer des paramètres, rajouter des bouts de code et s'appuyer sur l'existant.
Ok, merci.
Et donc, en fait, cette librairie existe et on a la possibilité de l'utiliser pour lancer sa propre blockchain Ah, par exemple, on voit des blockchains Cosmos qui sont spécifiques aux NFT. Stargaze, par exemple. Aujourd'hui, c'est une blockchain app specific chain basée sur les NFT pour lancer des NFT, faire une marketplace de NFT, etc., etc. Du coup, en fait, cette blockchain sera bien plus efficiente que n'importe quel smart contract qui permet de placer, vendre ou faire autre chose avec des NFT parce que c'est le logiciel en lui-même de la chaîne qui est censé gérer l'environnement des NFT. Donc, tout l'effort et toute l'énergie qui sera déployée, c'est pour le service des NFT. Mais la force, c'est que IBC, donc Inter-Blockchain Communication, c'est que ça ne reste pas cantonné à l'univers Stargaze, mais il y a des communications et des ponts standardisés qui ont été créés entre toutes les Cosmos SDK-based chains. Ça veut dire que des assets qui existent dans Stargaze peuvent aller se déplacer vers une autre blockchain qui est basée sur Cosmos. Et en fait, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est incroyable, parce que c'est un peu la recréation d'un écosystème de libre-échange. Quand tu as un pays tout seul, protectionniste, qui ferme ses frontières, bah en fait, voilà, il se développe tant bien que mal avec les ressources qu'il a en interne. À partir du moment où il commence à développer le commerce, bah en fait, il y a une économie florissante parce qu'on échange. Moi, je t'amène ces assets, toi, tu m'amènes ces assets. On arrive à créer de la synergie, etc., etc. Et on le voit aujourd'hui avec Osmosis, qui est un DEX, donc un AMM basé sur Cosmos SDK, qui fait que ça, un AMM. La chaîne en entier, elle ne fait que ça. Et aujourd'hui, Osmo, qui a été lancé, un asset qui a été lancé en mai 2021, est top 50 des blockchains. Il est listé sur aucun centralized exchange et sa valeur est drivée uniquement par les échanges entre Osmosis et toutes les chaînes qui sont connectées. Notre chaîne est connectée à Osmosis aussi. Et on voit cette valeur et cet échange de volume et de création de valeur qui est fait.
Et c'est amusant parce que quand on parle effectivement, que ce soit sur Atom ou sur Polkadot, d'interchain, on peut, dans l'inconscient collectif, ça peut aussi être Ethereum qui va communiquer avec Cosmos, justement. Ça, c'est une autre, ça, c'est l'équivalent des bridges aujourd'hui. C'est encore une autre solution.
Le problème des bridges jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce n'étaient pas des bridges protocolaires. C'était des bridges souvent qui étaient centralisés. Hein. Quand on veut bridger un asset de telle chaîne à telle autre chaîne, bah, en fait, il y a forcément quelqu'un qui détient le collatéral d'un côté et qui le mint ailleurs. Donc, il faut faire confiance à cette organisation qui garde le collatéral et qui mint l'asset ailleurs. Je sais qu'il y a des chaînes de l'écosystème Cosmos qui veulent se lancer dans un bridge entre Ethereum et l'écosystème Cosmos. On a UMI, U-M-E-E, qui souhaite faire ça, donc apporter de la liquidité interchain. On a aussi Evmos, qui est en fait une blockchain qui va bientôt lancer d'ailleurs son Genesis, qui va permettre de créer un environnement Solidity sur Cosmos. On a aussi Crypto.com qui a lancé sa chaîne Chronos, qui a forqué Ethermint, qui est en fait une initiative de développement indépendante qui était de mettre Tendermint, qui est le protocole de consensus de Cosmos, avec une VM. Et donc, en fait, Chronos a récupéré un peu ce travail, a rajouté quelque chose. Et donc, aujourd'hui, on peut lancer les mêmes smart contracts que ceux qui vivent dans l'écosystème Ethereum, mais sur Chronos. Et ce qui va être hyper intéressant et hyper excitant, c'est quand on va pouvoir mapper les standards ERC avec les standards CW, donc CW pour Cosmoism, qui est le langage de programmation des smart contracts dans l'écosystème Cosmos. Et quand on pourra mapper les ERC20 avec les CW20 et les ERC721 avec les CW721, là, en fait, il va y avoir une explosion de valeur incroyable.
Quand tu dis mapper, c'est faire la même chose de l'autre côté?
Bah, en fait, en gros, aujourd'hui, le problème, même si Chronos a lancé sa chaîne qui est basée sur le protocole de consensus Tendermint, bah, en fait, les assets qui sont mintés sont des assets qui sont basés sur le langage Solidity et donc sur les standards ERC.
Donc Ethereum.
Ethereum. Donc en fait, un asset, par exemple, disons un NFT qui est minté dans l'écosystème Ethereum, n'est pas codé de la même façon qu'un asset qui est minté et n'a pas forcément le même standard qu'un asset qui est minté dans l'écosystème Cosmos. Donc en fait, il nous faut des middleware qui vont permettre de traduire les ERC et les CW. Une fois qu'on aura fait ça, bah, en fait, là c'est... Ça va être incroyable.
Et c'est là où tu dis il y aura une explosion de valeur du coup entre les parce que là il y aura et de l'interchain dans l'écosystème, mais il y a l'interchain aussi dans tout l'écosystème des cryptos.
Exactement, exactement.
Et donc là, on aura effectivement encore une explosion supplémentaire. Pourquoi, justement, en parlant d'explosion, là, on en entend parler Cosmos de plus en plus en ce moment. On parlait du cours en introduction, effectivement, qui symbolise pour beaucoup la performance de la blockchain actuellement. Pourquoi cette prise de conscience aujourd'hui, en janvier 2022?
Je pense pas que ce soit une prise de conscience. Je pense que c'est un travail de longue haleine qui a été fait par la qualité des développements qui ont été faits par les équipes de Tendermint et les équipes de chaque projet de l'écosystème Cosmos. Je pense que le lancement de Osmosis a été un facteur majeur de l'histoire de l'écosystème Cosmos, parce que finalement, Osmosis s'est un peu positionné comme hub, parce que l'usage numéro un était celui de l'échange. Donc, il n'y avait pas d'AMM dans l'écosystème Cosmos. Osmosis a été le premier à se lancer à ce moment-là et à driver les interconnexions de valeur entre les différents projets de l'écosystème Cosmos. Et d'ailleurs, je serais très intéressé de voir, et je suis sûr qu'il y a une corrélation entre le nombre de chaînes Cosmos SDK-based connectées à Osmosis et l'explosion de la valeur de l'écosystème Cosmos.
Ouais.
Plus on a de valeurs qui se concentrent sur Osmosis, plus la valeur de l'Osmo décolle. Et comme les pools de liquidités sont souvent liées à des paires liées à l'Osmo, tout le monde décolle en même temps. Et donc, en fait, c'est cette valeur écosystémique et synergétique qui apporte un drive vers le haut parce que tous ces assets s'aident les uns les autres. On est un écosystème, on est tous ensemble. Et tout le monde en profite. C'est comme si on. C'est comme. Quand il y a eu, ben, tu dis, voilà, ouverture des frontières, libre-échange, plus de taxes. En fait, il y a de la valeur qui se crée par ça.
Et quelle différence entre l'écosystème Cosmos et ce que veut faire Polkadot?
En fait, je trouve que c'est une très bonne question. Et je vais te donner la réponse qui a fait qu'on n'a pas choisi Substrate, on n'a pas choisi Polkadot. Déjà, Polkadot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont juste pompé Cosmos. Enfin, ce n'est pas quelque chose de partisan que je suis en train de dire. Hein. C'est juste que Cosmos a été. Les développeurs de Cosmos ont été les premiers à parler de ces technologies-là et à commencer à bosser dessus. La seule différence, c'est que Polkadot a été beaucoup plus organisé et a délivré beaucoup, beaucoup plus vite, que ce soit en marketing ou en communication. Et souvent, ils ont été backés aussi par des fonds VC de la Silicon Valley. Et donc, c'est quelque chose vraiment backé par des VC, tu vois. Et quand on dit VC, on dit efficacité, efficience, delivery, etc., etc. Cosmos. Eh ben en fait, c'est un truc un peu plus anarchiste, c'est un truc un peu plus open source, c'est un truc un peu plus cypherpunk, c'est un truc un peu plus. Mais la philosophie est bien meilleure. Polkadot essaie de concentrer la valeur sur le dot. Aujourd'hui, si tu veux être une parachain, tu dois payer un loyer. Dans l'écosystème Cosmos, il n'y a rien de tel. Tu veux te connecter à une chaîne, si IBC est activé sur cette chaîne, et que tu es prêt à assumer le coût des transferts, qui est une taxe, en fait, c'est normal. Tu crées des relayers et un channel, et ben en fait, tu n'as aucune taxe à payer à personne. Et donc, la connexion ne se fait pas forcément via Cosmos. Je peux me connecter si je le veux directement à Osmosis. Je peux me connecter si je veux. Donc, en fait, il n'y a pas de concentration de valeur designée par les développeurs de Cosmos dans l'atome. Et c'est vrai qu'en short term, c'était moins valuable, mais en long terme, c'est bien plus valuable parce qu'aujourd'hui, les gens voient la valeur d'un écosystème où je ne me fais pas taxer parce que je veux bénéficier d'un écosystème.
D'accord, donc c'est la philosophie est différente, pardon, mais l'objectif de base était similaire.
L'objectif de base est similaire.
OK. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le rôle des blockchains, moi en tant que user, moi je suis pas forcément intéressé par tout ce qui est KYC et tout. Quel intérêt j'ai aujourd'hui si je suis plus familier de l'écosystème Ethereum et je rentre là-dedans les sidechains Polygon et les Layer 2 de basculer et de venir m'amuser sur Cosmos? Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui ou quelque chose qui n'existe pas là-bas qui existe ici chez Cosmos?
Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Cosmos, souvent, les chaînes qui existent. Alors, il y a un truc, c'est une sorte de curation. Voilà. C'est très difficile de faire un scam sur l'écosystème Cosmos. Parce que pour exister en tant que chaîne dans cet écosystème, il faut convaincre des validateurs, des professionnels qui vont valider ta blockchain, etc. Donc en fait, il y a un travail immense à faire pour pouvoir exister. Et donc, on ne fait pas ça quand on a envie de faire un exit scam.
C'est amusant ce que tu dis. Effectivement, on a dit que tout le monde pouvait créer sa blockchain, tu l'as fait notamment, et ce sera là, on en discutera dans quelques minutes. Mais vous utilisez la sécurité de Cosmos pour le coup, vous n'avez pas vos propres validateurs.
Si, on a nos propres validateurs.
Donc, de l'écosystème.
On va leur parler, on essaie de les identifier, on leur parle sur Telegram, on leur parle sur Slack, on leur parle.
Ah oui, c'est
certains
ça,
viennent nous voir, etc. On leur dit, écoutez, on leur vend le truc comme on le vendrait à n'importe quelle personne qui serait un stakeholder. Et ils nous disent, OK, on considère que c'est pertinent. Ils achètent des keys, ils lancent leur validateur et ils sécurisent la chaîne.
Ouais, mais du coup, ils utilisent. Ce que je voulais dire, c'est le process de Secure, c'est codé en gros par Cosmos. Enfin, c'est la technologie de Cosmos.
C'est codé, mais c'est notre client. C'est notre propre client. En fait, nous, on a juste récupéré la librairie de Cosmos. On l'a rebrandé, on l'a adapté. Et en fait, les validateurs utilisent notre client, qui est bien sûr basé sur une technologie Cosmos.
C'est ça. OK. Donc, il faut aller les convaincre, par contre, pour en avoir suffisamment et tout.
Exactement.
Donc, c'est pour ça que
en fait,
pas rentable
ça,
d'arnaquer.
C'est un côté un peu. C'est pas du tout rentable. Hein. L'effort nécessaire pour faire ça est immense. Donc déjà, ça, c'est le côté… Ça, c'est un des côtés positifs de l'écosystème. C'est que tu sais, quand tu rentres dans un projet, même si le projet ne réussit pas forcément, tu sais que c'est des gens qui sont là quand même pour construire de la valeur, pas pour taper de la thune chez des investisseurs. Après, je ne vais pas vendre… ce qu'il n'y a pas dans l'écosystème Cosmos. Aujourd'hui, dans l'écosystème Cosmos, ce qu'il faut savoir, c'est que tout prend plus de temps. Tout prend plus de temps parce que ce sont des initiatives indépendantes avec, on parle bien de app-specific chains, donc des choses qui prennent beaucoup plus de temps qu'un smart contract. Et donc, effectivement, quelque chose que tu verras apparaître peut-être en 2 semaines sur un truc en Solidity, mettra 3-4 mois à sortir en tant que chaîne pleinement indépendante. Maintenant, il y a des chaînes dans l'écosystème Cosmos qui sont en train de se lancer avec des machines virtuelles Ethereum ou même avec Cosmoism, donc qui permet de faire des smart contracts. Juno, par exemple, qui est une blockchain qui est en train de cartonner. C'était l'un des plus beaux fair launch qu'on ait vu de l'histoire. Hein. C'est zéro VC, zéro investisseur. Ils ont juste fait un airdrop à toute personne qui stakait du Atom. Et aujourd'hui, c'est l'une des chaînes les plus valuables de l'écosystème Cosmos. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que bien sûr, ça prendra plus de temps d'avoir une chaîne qui fournit un produit, mais on a de plus en plus de chaînes de l'écosystème Cosmos qui permettent de développer des applications dessus. Nous, par exemple, là, on est en train de lancer un NFT Play to Earn en produit DeFi qui vivra sur Juno. Donc, on a développé des smart contracts sur Juno. Et on fait intercommuniquer Juno et la keychain pour faire circuler les assets. Et c'est ça qui est beau, c'est que s'il nous manque quelque chose chez nous, il nous suffit de nous connecter à une chaîne qui a ce qu'on veut, et on fait ça sur l'autre chaîne et on les fait communiquer.
Ok, effectivement. Donc là, ça prend tout son sens. Et du coup, la question que j'avais sur, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de la keychain, justement, combien de validateurs, combien d'utilisateurs, est-ce que vous avez ça en main?
Alors, je peux te donner quelques informations sur ce qu'on fait. Donc, alors, je vais rentrer un peu dans les détails de ce qu'on a fait sur 2021. On a aujourd'hui à peu près 90 validateurs qui sécurisent la chaîne. Nous, notre approche est quand même assez particulière et souvent la communauté nous le reproche, c'est qu'on ne communique pas. On ne communique pas. On prend notre temps. Et on communique uniquement quand il y a des choses à communiquer. Contrairement à l'ensemble des projets crypto qui existent où il suffit qu'ils pètent un coup pour dire « Ah ouais, il y a ça, get ready, machin. » Nous, ce n'est pas du tout notre approche. Notre objectif n'est pas de chiller notre asset. Notre objectif, c'est de créer de la valeur sous-jacente. Et ensuite, la valeur se construit over time et les gens, par l'usage, créent cette valeur. Et donc, bien sûr qu'on communique quand on a des choses pertinentes à dire. Mais moi, je suis exaspéré quand je vois des projets qui communiquent alors qu'ils ont juste un logo et voilà. Bon, anyway, ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on est en train de, travailler sur de nombreux produits DeFi qui vont être lancés, disponibles à tous les membres de la keychain et à tous les membres de l'écosystème Cosmos, et aussi à disposition des membres club, avec bien sûr quelques avantages particuliers pour ceux qui sont membres club, savoir des commissions qui sont réduites par le protocole, etc. etc.
Sur ce produit DeFi, comment ça va s'articuler autour de l'écosystème Cosmos du coup?
Et ben voilà, par exemple, premier produit DeFi, ça s'appelle Cosmon. Donc le compte Twitter, c'est Play Cosmon, P-L-A-Y Cosmon, C-O-S-M-O-N. Et donc en fait, c'est un NFT Play to Earn qui permet aux gens d'accumuler un certain nombre de cartes qui ont une stratégie particulière. En fait, moi, j'ai une approche assez particulière des NFT. Je n'ai pas acheté un seul NFT de toute l'histoire des NFT parce que je n'y crois pas. Je pense que c'est comme le marché de l'art, c'est un truc qui est 100% lié. Les gens vont me détester après ce podcast. Mais en fait, moi, je pense que les gens qui font du signaling en achetant du NFT en disant « Ouais, j'ai acheté un truc qui vaut 350 000 $ », en fait, c'est simplement ça qui définit la valeur du NFT. Et à partir du moment où la liquidité disparaît, c'est fini. Tu ne pourras plus jamais revendre ton truc que tu as payé 350 000 $. Il n'y a pas de valeur sous-jacente à part le paraître. Et moi, je considère que ça vaut zéro. Et c'est pour ça que je n'ai aucune œuvre d'art chez moi. Mais voilà. Ensuite, il y a des NFT de type, on va dire, de perks. Par exemple, tu suis une personnalité, elle lance un NFT, elle te dit si tu as ce NFT ou 10 NFT ou 20 NFT, ben en fait, à chaque fois que je fais un concert, tu as une première place, machin, tu peux venir en coulisses avec moi. Ça, par contre, c'est un peu mieux parce que ça te garantit un service en fonction de ce que tu fais et en fonction de ce que tu détiens de l'écosystème de ces NFT. Après, bon, tu as aussi le risque que la personne décède ou alors qu'elle décide de juste ne plus remplir ses engagements. Et donc, toi, tu te retrouves avec des trucs qui ne servent plus à rien. Dans ce cas-là, c'est problématique. Ensuite, il y a notre approche à nous. Et en fait, nous, la vision plus long terme est de se dire que quand les gens achètent des NFT, l'argent ne va pas chez nous, mais il va dans une DAO, qui est une stratégie d'investissement qui déploie cet argent dans des assets et que donc, en fait, ça farme un certain rendement. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. C'est que ces NFT vont générer du rendement par une stratégie décentralisée. Donc, tout détenteur détiendra ses assets, mais aussi une partie de ses rendements ira dans un price pool que les gens pourront gagner. Et donc, en fait, tu pourras booster ton rendement de 100 000% parce que ton deck, tu l'as rempli avec 5 000 $, mais le price pool mensuel est de 250 000, 300 000 $. Donc, en fait, c'est ça l'approche qu'on a et ça va bientôt sortir. Donc, ça va sortir fin février.
Et sur cet aspect-là, tu disais aussi néobanque, un peu plus institutionnel. Tu veux avoir comment tu veux essayer d'articuler ça aussi, du coup, comment ça fonctionne?
En fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est très difficile d'avoir un bridge entre le monde du fiat et le monde de la crypto. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est infernal pour convertir des USDC en USD ou en euros, et l'inverse aussi, parce que les banques comprennent que dalle, te bloquent, machin, tout ça. Et donc, en fait, on s'est dit, bon, déjà, on va faire en sorte que les gens puissent convertir leur fiat en crypto comme ils le souhaitent et leur crypto en fiat comme ils le souhaitent, mais aussi être capable de déployer directement des euros dans des produits DeFi. Et donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui via Club, c'est que les gens qui ont des capacités d'investissement, qu'ils soient capables de déployer cette capacité-là directement depuis une application.
OK. Et sur Cosmos, aujourd'hui, si tu devais justement… Pour nos auditeurs, leur indiquer quelques trucs à tester, quelques chaînes ou quelques services. Si tu dois en sélectionner trois pour qu'ils découvrent l'écosystème, ça serait lesquels?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, clairement, en numéro un, je recommanderais de tester Osmosis parce que c'est le go-to pour découvrir tous les assets qui font partie de l'IBC gang, comme on l'appelle dans notre jargon. Ensuite, en fait, Juno cartonne pas mal et il commence à y avoir des applications qui commencent à sortir sur Juno, dont Cosmon, qui va sortir sur Juno aussi. Et il y a une très belle boîte française qui s'appelle Loom Network, qui a une application qui s'appelle Loomkey et qui permet d'incentiver les gens qui laissent des avis sur des marques et autres dans leur crypto, donc le Loom. Et donc, ça permet de standardiser totalement le modèle d'incentive pour laisser des avis. Et aussi, ces avis sont stockés sur la blockchain et certifiés comme valides. Et donc, en fait, c'est une sorte de trust engine qu'ils ont développé. Et c'est une boîte française qui est backée par un gros fonds de private equity et qui cartonne pas mal. Et honnêtement, le Loom, je pense que bientôt, quand ils auront connecté et leur liquidité et leur business de base, va bien cartonner.
Ok, excellent. Et pour ça, effectivement, c'est comment les gens se connectent, c'est en fait c'est un nouveau réseau. C'est comme si on essayait, c'est MetaMask, c'est comment ça fonctionne tout ça?
Alors, c'est pas MetaMask, c'est une application aujourd'hui qui s'appelle Kepler, qui permet, qui fonctionne exactement comme MetaMask et qui permet de recevoir ses assets et de se les envoyer, etc., etc.
De signer et des contrats, des choses comme ça.
De signer des transactions, des transactions, de signer des contrats. Ouais. C'est un truc vraiment, c'est très user-friendly. Je sais que Tendermint est en train de travailler aussi sur un module similaire. Donc, c'est un projet qui s'appelle Emeris et donc qui va permettre aussi d'avoir des alternatives à Kepler pour pouvoir interagir avec les différentes chaînes.
Ok, trop bien. Je mettrai ça aussi en description pour que les gens puissent s'y frotter et pour, parce que c'est toujours mieux de s'y frotter pour comprendre un peu cet écosystème qui grandit. Et tu me disais tout à l'heure aussi qu'on est au début de cette vague où il va y avoir cette interconnexion entre les blockchains et particulièrement pour l'écosystème Cosmos, et que c'est peut-être l'année pour Cosmos et ce genre de blockchain du coup 2022.
Bah, je pense que d'un point de vue technologique et d'un point de vue produit, c'est l'année Cosmos. Honnêtement, nous, on a choisi de bosser sur Cosmos en 2018 en voyant ce qui allait arriver. On pensait que ça allait arriver en 2019-2020. Bon, c'est arrivé en 2021, IBC. Mais finalement, mieux vaut tard que jamais. Après, je n'irai pas dire aux gens que Cosmos va faire un fois 100 ou Atom va faire un fois 100 ou quoi que ce soit, parce que après, il y a quand même un contexte de marché qui font que si tout se casse la gueule, tout se casse la gueule. Et puis voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui…
En termes de solutions.
En termes de solutions technologiques et en termes de futur désirable, honnêtement, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu le dernier article de Vitalik, Endgame.
Ouais.
En fait, il décrit Cosmos hein, dans tout le truc. En fait, la solution qui marche, c'est Cosmos. En fait, on n'a qu'à changer le nom d'Ethereum en Ethmos, tu vois. Enfin, donc c'est marrant qu'on tente vers ça, qu'on se rende compte de plus en plus que ce sera la solution. Mais en fait, nous, on est très contents de faire partie de cet écosystème et de le faire grandir.
Ok, super. Merci beaucoup, Reda.
Mais je t'en prie, un plaisir. Thank you.